VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anna Robertson. Au sommaire en ce lundi 30 mars 2015.
Élections présidentielles et législatives au Nigeria. On connaîtra peut-être dès aujourd'hui les résultats. Le scrutin s'est relativement bien déroulé.
Il y a des gens qui veulent poser des problèmes avec la sécurité. Tout est bien marché, c'est pas comme avant.
Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos.
Le virus à Ebola frappe toujours en Afrique de l'Ouest.
Au Burkina Faso, le gouvernement a initié des états généraux de la justice qui ont abouti à la signature d'un pacte national de renouveau de la justice.
8 chapitres subdivisés en 114 articles. C'est sous ce format que se présente le pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina.
Tout à l'heure, l'analyse de Zoumana Wonogo.
Et puis, les dirigeants arabes se sont engagés à poursuivre la campagne aérienne saoudienne au Yémen jusqu'à ce que les Houthis appuyés par l'Iran se rendent. Mais tout d'abord, le journal. Élections présidentielles et législatives au Nigeria. Le vote s'est poursuivi dimanche pour la deuxième journée consécutive. Selon la Commission électorale nationale indépendante, environ 350 bureaux de vote sont restés ouverts dimanche, le scrutin ayant connu des retards massifs et des problèmes techniques samedi.
Des partisans de l'opposition ont déjà contesté les résultats dans l'état de Rivers, dans le sud du Nigeria, avant même leur annonce. La police anti-émeute a été déployée autour des bureaux de la Commission électorale nationale indépendante à Port Harcourt, où des centaines de partisans de l'opposition manifestaient.
C'est peut-être aujourd'hui qu'on sera fixé sur les résultats de la présidentielle, a indiqué le président de la Commission électorale, Atahiru Jega, lors d'une conférence de presse hier. Selon des sondages conduits avant le scrutin, le président Goodluck Jonathan, 57 ans, et son principal rival, le général Muhammadu Buhari, 72 ans, étaient au coude à coude dans la course à la présidence. Du côté des électeurs, le sentiment général est que les choses se sont plutôt bien passées. Timothée Donogmaï a recueilli la réaction de Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos.
Il y a des succès parce que sinon il y aura des magouilles parce que c'est ce que les politiciens sont en train de faire avant. Mais maintenant là, c'est mieux. Comme les observateurs internationaux sont ici aussi, il y a la paix partout. Il y a des gens qui veulent poser des problèmes, mais avec la sécurité, tout est bien marché, c'est pas comme avant. Les gens ont peur, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les villes même. Mais moi, je suis toujours à l'aise, je n'ai pas quitté. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté.
Pensez-vous que ces élections vont permettre au Nigeria de sortir de la crise actuelle?
S'il y a des changements, si c'est Buhari qui aura la victoire, tout le monde sera content parce qu'on a besoin des changements, quoi. Parce qu'on en a assez marre. Il y a beaucoup qui ne marchent pas. Il n'y a pas d'électricité, les salaires ne sont pas bien payés, la pauvreté continue toujours. Et puis avec la crise, tout se trouve au nord, jusque maintenant, les Boko Haram la font là.
Selon l'agence France Presse, le chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola a salué dimanche l'instauration d'une urgence sanitaire renforcée dans 5 préfectures du sud-ouest et de l'ouest de la Guinée en raison d'une recrudescence de cas dans ces zones. La mesure annoncée samedi par le président guinéen Alpha Condé, je pense que le moment est opportun, a déclaré le Mauritanien Ismaël Oul-Cheikh Ahmed dans les médias publics guinéens.
Toujours concernant le virus à Ebola, les autorités libériennes demandent aux personnes ayant survécu à la maladie de ne pas avoir de rapports sexuels non protégés. En effet, la malade qui est décédée du virus vendredi au Libéria était mariée à un homme qui avait survécu au virus à Ebola. Les autorités pensent qu'elle pourrait avoir contracté la maladie mortelle suite à des rapports conjugaux. L'Organisation mondiale de la santé recommande à ceux qui survivent au virus à Ebola d'éviter les rapports sexuels pendant au moins 90 jours, soit 3 mois. Mais les autorités libériennes conseillent aux survivants de continuer à utiliser des préservatifs jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur le mode de transmission de l'Ebola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran dans la dernière ligne droite avant la date butoir du 31 mars. En dépit de quelques avancées, des questions subsistent. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Téhéran et les puissances mondiales continuent de mettre des propositions sur la table, mais n'arrivent pas à trouver la bonne combinaison pour un compromis, a indiqué un responsable américain ayant requis l'anonymat. Pour les États-Unis et leurs partenaires, il s'agit d'obtenir de Téhéran des garanties vérifiables que l'Iran utilisera son programme nucléaire à des fins exclusivement pacifiques. Pour l'Iran, l'objectif principal est d'obtenir l'allègement et, à terme, l'élimination des sanctions économiques dont il fait l'objet.
The only path forward is one step at a time.
La seule voie vers l'avant est de franchir une étape à la fois. Et s'ils peuvent s'entendre sur une formule mutuellement acceptable, les défis qui resteraient seraient moins importants que s'ils devaient retourner dans leur capitale respective sans aucun résultat concret, explique Ali Vaez d'International Crisis Group. En fait, dans la situation actuelle, les négociateurs ne promettent pas un accord car il s'agit avant tout de s'entendre sur les éléments majeurs que couvrirait un tel accord. 3 autres mois de négociations seront ensuite nécessaires pour élaborer dans les détails le projet d'accord.
L'État islamique s'est renforcé depuis le début de la campagne de frappes aériennes menée en Irak et en Syrie par une coalition conduite par les États-Unis, a estimé le président syrien Bachar al-Assad. Dans une interview accordée dimanche à la chaîne CBS, M. Assad a déclaré que le nombre de recrues de l'État islamique s'est renforcé depuis le début des frappes en septembre 2014.
Par ailleurs, M. Assad a dit que les allégations selon lesquelles la Syrie a eu recours à des armes chimiques contre des civils sont de la propagande occidentale. Il s'est dit ouvert à un dialogue avec les États-Unis, mais a refusé de dire dans quelles conditions il pourrait quitter le pouvoir.
L'État islamique a diffusé dimanche une nouvelle vidéo montrant la décapitation de 8 hommes décrits comme des musulmans chiites. Ils auraient été exécutés dans la province syrienne de Hama. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la vidéo semble authentique.
En France, large victoire de la droite au second tour des élections départementales d'hier. Selon des projections que cite l'AFP, l'UMP de l'ancien président Nicolas Sarkozy et ses alliés centristes sont assurés de contrôler 65 à 71 départements sur 101. C'est un sérieux revers pour les socialistes du président François Hollande. Alors comment s'explique ce revers? Timothée Donangmaï a interrogé Charles Kabeya-Mouassé, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lyon.
Il y a au moins 2 causes fondamentales. C'est que la gauche elle-même, elle est divisée. À l'intérieur même du PS, il y a beaucoup de divisions. Une deuxième raison, c'est le manque, je dirais, de perspectives du gouvernement, et notamment du président Hollande. Tout ce qu'il avait promis et ce sur quoi il avait été élu, il n'arrive pas à le faire, il n'arrive pas à réaliser son programme. Et ça a suscité beaucoup de départs de gens du Parti socialiste, d'une façon générale de la gauche.
Et que faut-il lire dans ces résultats à 2 ans de la présidentielle de 2017?
Je crois que les pronostics pour 2 ans sont un peu compliqués, dans le sens où je pense qu'un retournement est possible d'ici 2 ans.
Le Front national a également obtenu de bons résultats dans ses départementales.
Là, c'est un travail de longue haleine. Tous les dessus, je dirais, des partis classiques se retrouvent au FN. Pour moi, ce n'est pas vraiment qu'un vote de contestation. Ça devient aussi un vote de conviction. De plus en plus, les Français n'ont pas honte de se dire militants FN, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans.
Les déchirants arabes se sont engagés à poursuivre la campagne aérienne saoudienne au Yémen jusqu'à ce que les Houthis, appuyés par l'Iran, se rendent et se retirent des territoires dont ils se sont emparés. Et puis, une alerte au tsunami a été diffusée lundi dans l'océan Pacifique suite à un séisme de magnitude 7,7 au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et maintenant, la Minute Éco avec Jacques Aristide.
Le budget pour l'exercice 2015 de la mairie de Libreville au Gabon a été arrêté à près de 28 milliards de francs CFA contre environ 20 milliards l'année dernière, soit une hausse de 8 milliards. Le budget de la mairie de Libreville est absorbé en grande partie par le paiement des salaires des agents municipaux. Elle compte plus de 2500 employés, un nombre souvent dénoncé par les différents maires qui se succèdent à la tête de cette municipalité. La compagnie d'électricité sud-africaine Eskom a fait renvoyer plus d'un millier d'ouvriers de sa centrale à charbon géante en construction de Medjoupi après un débrayage sauvage. Les ouvriers s'étaient mis en grève mercredi pour réclamer des bonus et des allocations, perturbant ce chantier crucial pour l'économie nationale, déjà très en retard. D'après le syndicat national de la métallurgie, les licenciements ont été notifiés par SMS. Les ouvriers appartenaient à des entreprises de sous-traitance, mais aucun à Alstom, a indiqué le groupe français. Le patron de Apple, Tim Cook, rejoint le club des riches américains donnant une partie de leur fortune à des associations caritatives. Le directeur général du fabricant de l'iPhone a expliqué au magazine américain Fortune, qui lui consacre un article à paraître dans son édition papier du 1er avril, avoir commencé à donner de l'argent discrètement, mais vouloir développer une approche plus systématique. Une fois qu'il aura payé les études universitaires de son neveu, âgé de 10 ans, il compte donner le reste de sa fortune à des associations.
Et l'on enchaîne avec l'actualité sportive. Présentation Élisée Hunk patine. Bonjour.
Bonjour Camille.
Luis Fernandez est loin de s'asseoir sur le banc de la sélection guinéenne de football.
Annoncé comme le successeur de Michel Dessuyer à la tête du Sélé national, Luis Fernandez est loin de prendre son nouveau poste. L'ancien coach du Paris Saint-Germain a précisé que entre lui et la Fédération guinéenne de football, rien n'est encore signé. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à Conakry. Il faudra donc attendre les prochains jours pour être vraiment fixé. Fernandez devrait signer un contrat lors de son passage à Conakry, ce qui est loin d'être fait.
Au Bénin, l'événement, c'est la fédération qui s'est vue retirer son agrément par le gouvernement.
Effectivement, Camille, c'est au Conseil des ministres que cette décision a été prise. Trois points ont été évoqués, notamment la crise qui secoue depuis toujours cette fédération et surtout la suspension des équipes des jeunes par la CAF, ce que n'a pas du tout digéré le ministre des Sports. D'ailleurs, une commission sera installée pour connaître les dessous de cette suspension. En froid depuis un bon moment avec le patron des sports au Bénin, la Fédération béninoise de football ne pourra plus exercer ses fonctions. Une chose est sûre, la FIFA ne va pas tarder à réagir. Sachez que cette décision n'a pas empêché le déroulement de la Ligue 1 qui était à sa 10e journée. Et l'Estonais de Boycon, tenu en échec à domicile par les Buffs de Parakou 0-0, perd sa première place au profit de Avrankou Omnisport, vainqueur de l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo 2-1. La S-Police de Cotonou, qui a battu les Panthères de Djougou 1-0, monte sur le podium.
Alors sur le terrain, plusieurs sélections africaines disputaient des rencontres amicales hier.
Parmi elles, la Côte d'Ivoire recevait la Guinée équatoriale. Et au final, les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 1-0, tout comme le match Afrique du Sud-Nigeria qui a eu lieu à Nesprit. La Zambie a battu le Rwanda 2-0, victoire en déplacement du Mozambique au Botswana 2-1 et nul 1-1 entre la Tanzanie et le Malawi. Précisons que la veille, le Sénégal a battu le Ghana 2-1 avec un doublé de Moussa Konaté. Pour les autres résultats, le Togo et l'île Maurice se quittent 2-2, 1-0. La République démocratique du Congo s'incline 2-1 devant l'Irak. Enfin, le Maroc est défait chez lui par l'Uruguay 1-0, but d'Edison Cavani. Suite des rencontres amicales aujourd'hui, et on aura Belarus, Gabon, Oman, Algérie, Maroc, Burkina Faso et Thaïlande, Cameroun. Demain, on va assister à une belle confrontation entre le Ghana et le Mali.
Et la Formule 1 pour finir avec le Grand Prix de Malaisie et Sébastien Vettel sorti vainqueur.
L'Allemand a décroché sa première victoire pour Ferrari. Porté par une bonne stratégie de course et la fiabilité de sa monoplace, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Malaisie. Il a devancé le champion du monde en titre Lewis Hamilton et son compatriote de Mercedes Nico Rosberg. Prochaine étape, la troisième en Chine. Et puis avec vous Camille, les résultats des matchs de NBA joués cette nuit sur les parquets américains.
Eh bien, il ne s'en est fallu que d'un point, mais Cleveland l'a emporté sur Philadelphie 87-86. Par contre, victoire écrasante de la Nouvelle-Orléans sur Minnesota 110-88. Les Lakers de Los Angeles sont inclinés devant les Brooklyn Nets 107-99. Houston a eu raison des Wizards de Washington 99-91. Victoire des Los Angeles Clippers sur Boston 119-106. Miami a battu Detroit 109-102. Dallas s'est incliné devant Indiana 99-104. Et une bonne soirée pour les Spurs de San Antonio de Tony Parker qui ont expédié Memphis 103-89. Et finalement, Oklahoma City n'a eu aucun mal à se débarrasser des Suns de Phoenix, battus 109-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous pour présenter les dossiers du jour. Nigeria est bien présenté comme des élections à haut risque. La présidentielle et législative nigériane se sont plutôt bien déroulées, ce qui a amené le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à féliciter les Nigérians pour la conduite largement pacifique et ordonnée des scrutins. Certes, il y a eu des tensions dans l'état de Rivers où des centaines de militants de l'opposition ont manifesté contre ce qu'ils ont qualifié d'irrégularité dans le vote. Les islamistes de Boko Haram se sont aussi livrés à quelques attaques, mais dans l'ensemble, les électeurs ont pu, dans leur majorité, se rendre aux urnes. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
La situation nigérienne, le jour de l'élection, on sait bien qu'il ne se passerait absolument rien que les gens ne craignaient. Le problème, normalement, serait après l'annonce des résultats. Les résultats ne favorisent pas l'opinion publique. C'est là le problème. Mais si ça favorise l'opinion publique telle qu'on l'avait prévu, il y aura moins d'incidents.
Boko Haram s'était juré de perturber ces élections. Il y a eu quelques incidents. Quel a été l'impact sur le scrutin?
Il n'y a pas d'effet sur le déroulement des élections, bien généralement. Ce sont des craintes et des soucis, mais on s'est bien lancé dedans et on a vu que c'était des craintes qui n'étaient pas aussi bien fondées.
On a vu que dans l'état de Rivers, qui est un peu dans le fief du président Goodluck Jonathan, il y a eu des incidents avec des militants de l'opposition qui parlent de fraude électorale et d'intimidation. Quelle est la portée de cette situation dans l'état de Rivers?
Le gouverneur de l'état et le président ne s'entendent pas. Et jusqu'à présent, ils étaient dans le même parti. Bon, il y avait des gens s'est mêlé maladroitement. Alors voilà que ces soucis ont commencé depuis longtemps. Et aussi la femme du président vient de cet état-là. Alors le gouvernement n'est pas un favori du gouvernement fédéral. Et les deux se soupçonnent. Et voilà que la feuille électorale où on devait reporter le résultat n'était pas disponible. Et voilà la soupçon qui a aggravé déjà les inquiétudes du gouverneur de l'État qui a été victime de beaucoup de menaces vis-à-vis son attitude qui est du côté de l'opposition. C'est bien fondé parce qu'il soupçonnait tout. Et il a su aussi mobiliser son peuple qui, contrairement à ce que disait le parti au pouvoir, son peuple le soutient beaucoup. La comité qui s'occupe des élections a annoncé qu'ils étaient en train de vérifier et voir le bien fondé des choses. Bon, on sait bien que les élections peut-être seront reportées, ils vont reprendre les élections après avoir annoncé les résultats dans les États où il y avait moins d'incidents.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos. Camille Grodidi avec vous. En République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile se demandent comment les élections locales vont se dérouler cette année au Nord Kivu, car une grande partie de la province est non seulement enclavée, mais demeure sous contrôle des groupes armés nationaux et étrangers. On écoute notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaigua.
L'autorité de l'État n'est pas encore établie sur une grande partie de la province du Nord Kivu. Malgré les efforts fournis pour traquer les groupes armés, il n'y a rien qui rassure le bon déroulement des prochaines élections locales. Daouda Saïdi est responsable de la commission électorale indépendante dans le territoire de Walikale.
Si on arrivait pendant les opérations électorales et que ces lieux-là ne sont pas encore sécurisés, on aura des difficultés pour déployer des matériels et des personnels. La deuxième difficulté, c'est en rapport avec l'enclavement. Et cela va vraiment empiéter dans les opérations pour déployer les matériels.
Dans la partie nord de la province, les groupes armés continuent à occuper plusieurs villages. C'est le cas du territoire de Lubero, dans lequel séjourne Clovis Muniere, coordinateur chargé de la restauration de l'État dans cette partie du Nord Kivu.
Le territoire est contrôlé par les forces négatives à 70%. Il n'y a que 30% que l'autorité de l'État est rétablie. Il y a quelques villages qui sont pris en otage par les FDLR et alliés, c'est-à-dire les alliés, surtout les groupes armés autochtones.
Eu égard à toutes ces difficultés, le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mwiti, exige une table ronde sécuritaire avec le comité provincial de sécurité.
En tout cas, il y a beaucoup à faire sur le plan de la consolidation de la sécurité. Tout cela nécessite qu'il y ait une collaboration entre la société civile et les services de sécurité. Et cette collaboration exige que nous puissions tenir un dialogue pour nous dire certaines vérités.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour VOA Afrique.
Didier, sur les ondes de la Voix de l'Amérique, au Burkina, le gouvernement a initié des états généraux de la justice qui ont abouti à la signature d'un pacte national de renouveau de la justice au Faso. Des précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
8 chapitres, subdivisés en 114 articles. C'est sous ce format que se présente le pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina. Suivant l'appréciation qu'en fait Joséphine Ouédraogo, la ministre burkinabé de la justice.
Par la signature publique du pacte national pour le renouveau de la justice, l'on ne saurait avoir une meilleure expression de notre volonté politique de restaurer le système judiciaire burkinabé et tout son appareil. La réalisation des engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui repose essentiellement sur l'éveil des consciences des acteurs du monde judiciaire et leur pleine adhésion au principe d'intégrité, de droiture, d'indépendance et de respect du justiciable, quelle que soit sa condition sociale.
Le président du Faso, pour sa part, insiste sur le volet accessibilité de la justice. On écoute le président Michel Kafando.
Le pacte aussi s'est présenté sur l'accessibilité du justiciable. Il ne s'agit pas simplement de recadrer les fonctions, le rôle et le comportement du juge, mais il faut aussi permettre aux justiciables, ceux-là qui demandent qu'on leur fasse justice, il faut leur permettre de pouvoir accéder à la justice. Et le pacte a redéfini un certain nombre de modalités à partir desquelles cette accessibilité-là pourra désormais véritablement fonctionner de façon à ce que tout le monde ait droit à la justice. Je pense qu'au total, nous sommes arrivés à avoir un outil qui va nous aider beaucoup.
Le pacte va-t-il casser l'image négative qu'ont les Burkinabés de leur justice ? Thérèse Traoré, la présidente de la Cour de cassation, répond.
Nous espérons profondément que l'ancienne image qui collait à la justice va être dépassée. L'immense majorité des magistrats travaillent dans des conditions très difficiles et nous pensons que les moyens seront mis en œuvre pour que les magistrats puissent travailler dans de meilleures conditions, puissent rédiger les nombreux dossiers qui sont en souffrance parce que tant que ces dossiers ne sont pas rédigés, ça ne peut pas aller à la Cour d'appel. Et au niveau de la Cour d'appel, tant que les jugements ne sont pas rédigés également, s'il y a des pourvois en cassation, la Cour de cassation ne peut qu'attendre. Et la lenteur de la justice est justifiée par ce fait-là. Et par le fait aussi qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats au Burkina Faso.
Justement, Hervé Kam, qui a quitté le corps de la magistrature pour devenir avocat, va-t-il repérer le sens retour avec ce renouveau souhaité ? On écoute Hervé Kam.
Oui, j'ai quitté les fonctions de magistrat. Je suis devenu avocat. Donc, restant toujours dans la famille judiciaire, les préoccupations donc, nous intéressent toujours. Je pense que si ça peut donner espoir de revenir, ça sera déjà ça. Mais je pense que la signature du pacte est plutôt l'occasion donc de s'inviter encore à plus de combats parce qu'une chose est de signer le pacte, une autre chose est de le respecter.
Pour la mise en œuvre du pacte, il a été créé un mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation appelé AMP, Autorité de mise en œuvre du pacte. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ici Washington, au Mali, les autorités ont organisé un meeting d'explication du projet d'accord d'Alger. La rencontre a été parrainée par les partis politiques de la majorité présidentielle. Le but est de faire adhérer le maximum de Maliens à l'accord paraphé par le gouvernement malien le 1er mars 2015 à Alger. Dans la même veine, les populations de Tombouctou ont soutenu le document à travers un grand rassemblement, même si cette région fait toujours face à des enlèvements et braquages de véhicules. D'autres précisions avec notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Ils étaient ministres, députés, cadres de l'administration malienne, appartenant à 60 partis de la majorité présidentielle qui ont pris part au meeting de Bamako sur l'accord d'Alger. Professeur Tchomoko Sangaré, président du parti ADEMA, et Zoumana Tchidoumbia, député à l'Assemblée nationale.
Ceux qui ont négocié cet accord, qui l'ont paraphé, ils sont aussi patriotes que ceux qui critiquent de bonne foi, sans savoir ce qui est dans l'accord.
L'accord est bon parce qu'il instruit la promotion d'un développement
équilibré de l'ensemble des régions du Mali en tenant compte de leurs spécificités. Cet accord est bon parce qu'il permet d'engager une lutte sans merci contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transfrontalière organisée.
Les jeunes et les femmes ne sont pas restés en marge du grand meeting de la majorité présidentielle.
Les femmes de la CMP s'engagent à soutenir ce processus jusqu'à son aboutissement final.
Un Mali meilleur, un Mali en paix, où toutes ses filles et tous ses fils vivront dans la quiétude, est possible avec cet accord issu du processus d'Alger.
La jeunesse de Kidal réclame la décentralisation. Pas de fédéralisme, pas de statut particulier, ni pour le Nord, ni pour le Sud, car nous estimons que les Maliens de Kay et de Kidal sont égaux, ont les mêmes droits.
Lors de notre passage à Tombouctou, il y a eu un grand regroupement à la place Sankore. C'est là pour soutenir l'accord paraphé par les autorités maliennes.
La nécessité pour nous tous d'œuvrer au retour de la paix, parce que c'est nous d'abord qui sommes victimes de ce manque de paix, de ce manque de concorde. C'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires de l'accord de paix si cette paix-là arrivait à se réaliser.
C'est la première fois que j'assiste à une telle rencontre, mais j'avoue que vraiment j'en ai tiré profit. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, vraiment de l'espoir par rapport à la sécurité.
Adama Togo, gouverneur de la région de Tombouctou.
Ces derniers temps, il y a des enlèvements de véhicules sur le tronçon Tombouctou-Koundam. Certains sont en train d'analyser cette situation pour essayer de créer une certaine division entre les communautés. Il fallait donc demander à la population d'éviter les amalgames, de comprendre que tout ce qui se fait présentement sur les tronçons et dans les villages, c'est des provocations pour mettre à mal le processus de paix.
Face à ces banditismes résiduels, la population de Tombouctou se demande si la signature de l'accord permettra une paix définitive au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier avec vous. La ville de Diffa a subi en février au moins 3 attaques des combattants de Boko Haram. Une partie de la population avait même fui cette ville dans l'extrême sud-est du pays. Avec l'instauration de l'état d'urgence et le déploiement de nombreux soldats nigériens, la vie reprend peu à peu. Notre envoyé spécial Idriss Fall a retrouvé au marché de Diffa un survivant après un tir d'obus venu du Nigeria.
Je m'appelle Mada Kiari Boukar. Je suis un réparateur de cellules. J'étais dans mon atelier, j'étais sorti dehors. Voilà le hangar qui est à côté là. J'étais donc sous le hangar. J'ai entendu seulement boue, je ne sais pas d'où ça vient. Après, il y avait tellement de poussière. Après la poussière, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai perdu mon doigt, le troisième doigt de la main droite. Et après, on est parti à l'hôpital pour se soigner. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais apparemment, c'est une roquette qui a été lancée de loin.
Mais les balles là, c'est quoi alors? Les impacts de balles?
Ça, c'est l'obus qu'ils ont tiré. C'est ça, c'est l'impact qui sont partout. Ils ont détruit la télé, tout ça là, ce que vous voyez sur le mur, c'est toujours l'impact.
Depuis votre business, comment ça s'est passé?
Je n'ai vu que de la réparation de celle-là. Et puis en perdant ce doigt là, maintenant, je viens seulement m'asseoir. Je charge la batterie parfois. Je suis un père de famille, d'une famille de 7 membres. Je me débrouille. Bon, j'attends à ce qu'on mette quelque part, mais je n'ai rien vu. Personne ne m'a touché par rapport à ça.
Boko Haram, en tant que musulman, vous y pensez quoi?
Mais moi, je trouve que ça ne fait pas partie de l'islam. L'islam n'a jamais été violent. L'islam, c'est une religion de paix. Ça, ce qu'ils font là, c'est pour gâter le nom d'islam, sinon ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est plutôt des ennemis même des musulmans, parce qu'ils ne tuent que les musulmans. Pourtant, moi, je suis musulman, voilà, je suis là en train de exercer mon métier, il me fait perdre mon doigt. Donc je ne vais pas dire que c'est des musulmans, ça. Ça, c'est anti-islamique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, au micro Camille Grodidier. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bonne journée.
au cœur de l'info.